Sais-tu ce que c'est que l'éthique dans le design ? À quoi ça sert et comment mettre ça en place au sein d'une équipe, d'une société ? Pourquoi l'éthique est un thème fort actuellement ? Eh bien, j'ai posé ces premières questions à Amélie qui y répondra dans la suite. Elle va aussi t'expliquer pourquoi et comment a-t-elle choisi cette voie dans son parcours de designer. On parlera aussi de l'association Designer Éthique qu'elle a co-créée avec Carl Pinault. Et à la fin de l'interview, elle répondra à la question « Peut-on être designer et éthique ?» Alors, reste bien jusqu'à la fin de l'épisode. Allez, c'est parti. Savoir, c'est bien. Tout savoir, c'est mieux. Avec Design Plus, je te propose de rencontrer ensemble les designers français qui vont te permettre de développer tes connaissances et d'apprendre. Bonne écoute. Bonjour Mélie, comment vas-tu ?
Je vais très bien, merci. Et toi, Laurent ?
Eh bien, ça va. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'enregistrer chez Mélie, dans le 78, quelque part, voilà. Et je suis très heureux d'être en direct, en live, avec Mélie. Est-ce que tu pourrais te présenter auprès de nos auditrices et auditeurs, s'il te plaît ?
Oui, avec plaisir. Donc, je suis designer. Je travaille actuellement au sein de SNCF Connect & Tech, donc qui est la filiale numérique du groupe SNCF, sur une activité de design vision et numérique responsable. Mon quotidien, c'est de travailler donc avec les différentes expertises internes, donc que ce soit les product designers, les profils tech, le product management, et c'est d'élaborer la vision produit à moyen terme, donc en prenant en compte les évolutions sociales et environnementales. J'ai aussi une action qui est de promouvoir le numérique responsable au sein des équipes produits, notamment au travers d'un programme dédié donc qui allie formation à l'éco-conception, mesure d'impact et définition de principes numériques responsables pour ces équipes produits. Je suis également co-initiatrice de l'association Designer Éthique, donc qui est une structure de recherche-action sur la conception numérique responsable et les pratiques de design. C'est une communauté donc, où on explore de nouvelles pratiques de conception, on sensibilise la communauté par la création d'outils en Creative Commons. Et également, on forme les designers donc, à de nouveaux savoir-faire, comme l'éco-conception numérique, l'accessibilité ou encore la systémie.
D'accord, donc beaucoup d'activités. ce qui serait d'abord intéressant pour parler de design éthique, pourquoi tu t'es intéressé en fait à l'éthique dans la pratique du design ?
Alors, ça a été une question qui a été un fondement en fait dans mon parcours de designer. J'ai notamment découvert la notion d'éthique quand j'étais étudiante en design de produits, donc au sein d'un BTS à la Souterraine, donc qui était déjà orienté sur des questions d'éco-responsabilité. Donc à ce moment-là, j'ai découvert l'univers. Des considérations sociales et environnementales dans mon métier. J'ai ensuite poursuivi mon parcours au sein d'un master en design de services publics à Strasbourg. Et après, j'ai fait une spécialisation donc, dans le numérique à l'école de design de Nantes Atlantique. Et au moment où je suis arrivée donc, au sein du master à Nantes, donc c'était en 2016, il n'y avait pas de sensibilisation en fait, dans les cours proposés au sujet de l'éthique.
D'accord.
Et à ce moment-là, c'était vraiment la période de foisonnement où on avait un peu un culte dédié aux GAFAM. Et finalement, il n'y avait pas de remise en cause des modèles existants dans le numérique et encore moins de réflexion un peu profonde sur le métier du design. Et je me souviens que voilà, je m'étais engagée dans cette spécialisation, mais je n'étais pas 100% alignée en fait, avec la vision du numérique qu'on nous proposait. Et donc, j'ai voulu explorer un petit peu plus loin la notion de responsabilité au travers de mon métier. Et notamment, je me suis intéressée au design de l'attention, donc aux mécanismes qui sont en fait, utilisés par les designers pour capter l'attention, notamment sur les réseaux sociaux. Et in fine, voilà, j'ai poursuivi en fait l'exploration de cette thématique pour arriver à des questions plus fondamentales sur l'éthique et aussi me poser la question comment moi en tant que designer je veux contribuer et comment je veux mettre ma pratique au service de quelque chose qui fait du sens en tout cas pour moi.
D'accord, ok. Alors quels sont tes moyens d'action aujourd'hui alors Mélie ?
Bien aujourd'hui donc on va dire que j'ai plusieurs modes d'action. Un premier, c'est d'aller explorer ma pratique de designer, re-questionner aussi les fondements, apprendre de nouvelles compétences, notamment au sein de Designer Éthique. Donc, qui a aussi un espace qui est important pour moi afin de réfléchir en fait, sur mon métier et pouvoir aussi connecter avec d'autres membres de la communauté du design, notamment au travers d'Ethic by Design, qui est un événement aussi fédérateur pour nous.
D'accord.
Et après, c'est aussi de pouvoir, on va dire, ancrer ces convictions que je développe au travers de cette notion d'éthique et de design dans la réalité du terrain et notamment au sein d'organisations. Et donc actuellement, c'est au travers de mon expérience au sein de SNCF Connect & Tech et des projets clés que je mène en interne.
D'accord, ok. Alors j'ai oublié de vous dire effectivement que cette interview, il y a plusieurs parties. Donc ça, c'était la première partie sur la présentation de Mélie. Dans une deuxième partie qu'on va aborder tout de suite, c'est on va parler de la définition en fait de design éthique. Vous verrez, il y a plusieurs questions qui sont très intéressantes. La troisième partie, on va parler des designers, de l'éthique et du numérique. Dans la quatrième partie, on va parler les actions qui ont lieu de designer éthique. Et voilà. Et ensuite, en conclusion, on répondra au titre peut-on être designer et éthique. Donc, dans la deuxième partie que nous abordons maintenant, on va plus parler effectivement de la définition entre design et éthique. Et donc, pour entrer dans le vif du sujet, quelle est pour toi en fait la définition que tu donnes au mot éthique en tant que designer?
Pour moi, l'éthique, c'est une réflexion fondamentale sur les droits et devoirs que nous avons en tant que praticiens. Donc, pour moi, c'est notre conscience professionnelle qui va reposer sur des valeurs morales, des principes qui nous sont propres et qui vont nous permettre d'agir dans le meilleur sens possible envers les utilisateurs, mais aussi la société au sens large. Donc, aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs niveaux quand on parle d'éthique. Le premier niveau, c'est l'éthique personnelle. C'est celle qui est la plus répandue aujourd'hui. Donc, il va reposer justement sur des convictions ou des valeurs personnelles qui nous sont propres. Et on constate que cette éthique personnelle, elle n'est pas institutionnalisée. Donc, c'est vraiment une éthique qu'on développe individuellement. Dans mon parcours de designer, il y a quelques années, j'avais défini justement des principes directeurs pour élaborer cette éthique personnelle qui me permet de me guider dans mon parcours, dans mes projets. Et il y a quatre valeurs qui sont importantes pour moi. Donc il y a la question de l'utilité, c'est de pouvoir mettre à profit mon savoir-faire en tant que designer pour concevoir des produits, des services qui répondent à des besoins essentiels aux individus mais aussi à la société.
D'accord.
Il y a la notion de durabilité, donc pouvoir contribuer à des projets qui ont un minimum d'impact sur l'environnement. Il y a la notion d'universalité, donc pouvoir faire profiter ma pratique de design et servir le plus grand nombre. Et enfin, il y a la question de l'autonomie, pouvoir concevoir des produits ou services qui sont compréhensibles, qui sont utilisables par le plus grand nombre. Donc ça, c'est un cadre de référence que je me suis construit et qui m'a beaucoup aidé aussi pour orienter mes choix de parcours, les projets que je veux rejoindre, qui sont des garde-fous en fait.
D'accord. Et donc ça veut dire que ces quatre principes, tu les planifies ou tu les mets en place dans chaque projet, même au sein de ta société aujourd'hui?
Alors en fait, tu peux les utiliser à différents niveaux. Ça peut être en effet ça peut être une sorte de cadrage quand tu veux accepter ou non un projet, te dire est-ce que ce projet correspond à mes valeurs personnelles et du coup est-ce que j'y vais ou non.
D'accord.
C'est aussi un cadre qui permet de diriger ton parcours de designer. Est-ce que par rapport à tes valeurs personnelles, tu vas rejoindre cette agence ou cette entreprise? Est-ce que ça fait sens pour toi? Moi, je l'utilise à différents niveaux. En fait, ça dépend des cas. Que ça soit projet ou parcours professionnel.
D'accord. Et est-ce que tu arrives à mettre en place ces quatre principes dans un seul projet? Est-ce que ça existe ou est-ce que c'est possible? Accède à plus de 100 épisodes en illimité. Écoute tous les épisodes sans aucune coupure depuis 2019. Reçois des newsletters exclusives du podcast. Écoute les nouveaux épisodes avant le public. Participe à l'évolution du podcast. Viens poser tes questions durant les enregistrements. Pour bénéficier de tous ces avantages, rejoins maintenant la communauté premium de Design Plus. Pour cela, clique sur le lien qui se trouve dans la description de cet épisode pour t'abonner maintenant.
Bah alors, c'est ça, ouais, c'est une très bonne question. On va dire que ça, c'est on va dire un guide où si tu arrives à transcrire ces quatre valeurs, bah, c'est vraiment la version idéale. Mmh. Et parfois, en effet, tu vas plus mettre l'accent sur un projet, par exemple sur la notion de durabilité. Par exemple. Donc, c'est aussi quelque chose que tu dois adapter, enfin, qui s'adapte aussi par rapport aux opportunités que tu as. Mais c'est vrai que, par exemple, là, enfin, en tout cas, dans mon activité au sein de SNCF Connect, on va dire que cette notion d'utilité, durabilité, universalité, autonomie, ben, c'est quelque chose que j'arrive à retrouver, déjà par la mission de l'entreprise où on conçoit un produit, voilà, pour les mobilités durables, le train. Qui est accessible au plus grand nombre, à tous les Français. Enfin voilà, il y a plein de facteurs. Du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis assez contente parce que je remplis bien mon cadre, en fait, ce garde-fou. Et je le nourris aussi, voilà, au travers de cette activité, mais aussi au travers des designers éthiques.
D'accord, ok, très bien. Il y a une question qui est intéressante, c'est... on parle souvent d'éthique et puis de morale. Est-ce que... C'est quoi la différence entre éthique et morale?
Oui, alors c'est vrai qu'on peut avoir tendance des fois à confondre ces deux notions, alors qui sont en fait distinctes. Comme on vient de le dire, l'éthique, c'est plutôt donc, on va dire, une guidance qui repose sur des valeurs personnelles plutôt que des obligations collectives. Et la morale, c'est plutôt, on va dire, des normes de comportement qui sont liées à une culture, à une époque, à un groupe social. Donc c'est différent.
D'accord, ok, très bien. Et là, par exemple, effectivement, sur la précédente question, on parlait de tes valeurs que tu as installées ou que tu essayes de faire correspondre et de ta profession. Alors, la question, c'est comment on peut faire valoir l'éthique donc à l'échelle de sa profession. Et est-ce qu'on parle de déontologie alors?
Oui, tout à fait. On parle de déontologie. Notamment quand on va définir des valeurs partagées et communes au sein d'une communauté professionnelle.
D'accord.
Il faut savoir en fait que la déontologie, elle repose sur deux composantes. Donc, ces valeurs qui sont communes à cette communauté professionnelle et qui vont définir en fait les fautes et les manquements, si par exemple on ne les respecte pas, et une instance de régulation qui va disposer de moyens légaux, juridiques, pour faire respecter ces engagements. Mmh. On a un exemple dans d'autres professions pour les médecins, par exemple, où ils ont des codes de déontologie. Le code, justement, c'est, on va dire, la pièce maîtresse quand on parle de déontologie, puisque c'est là où on va pouvoir inscrire, justement, les engagements que doit tenir cette profession. Aujourd'hui, on a en France un code de déontologie, notamment qui a été créé en 2011 par l'Alliance France du Design, donc où ils ont défini un code à destination des designers. Il y en a aussi à l'étranger, notamment à Montréal, avec le Conseil international du design, où ils ont déjà travaillé aussi à ces codes.
D'accord.
Donc, ils permettent de donner, on va dire, voilà, un guide pour la profession du design, voilà, à plus grande échelle.
D'accord. Et celui du International Council of Design, c'est ça,
ouais.
À Montréal.
Oui.
Donc, ça s'applique à toutes les professions, moi, à tous les designers dans toutes les communautés internationales, ça ?
Oui, en fait, c'est un regroupement en fait, de designers qui ont travaillé à l'élaboration de ce code. Et en effet, c'est pour toutes les spécialités du design. Donc, c'est transverse. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on voit ces codes-là, on peut avoir une limite. C'est déjà... Est-ce qu'ils sont partagés par tous au sein de la communauté? Est-ce qu'ils sont assez spécifiques, notamment pour nous, par exemple, dans le domaine du numérique? Il faudrait, je pense, qu'on arrive à aller un petit peu plus loin, en effet, sur ce type de code et que ça devienne vraiment un mouvement de la communauté en tant que tel. Aujourd'hui, on va dire que c'est plutôt des codes qui sont connus par les uns les autres, surtout si on est un peu engagé. mais c'est pas forcément partagé et vécu par tous.
D'accord, ok. Alors maintenant, nous arrivons sur la troisième partie de cette interview avec toujours avec Mélie, et on va parler des designers et de l'éthique. Et la première question, ce serait pourquoi l'éthique est une thématique qui ressort actuellement dans les métiers du design?
Alors aujourd'hui, c'est vrai que la question de l'engagement et de la responsabilité en tant que profession est remise sur le devant de la scène, car on est dans une période en fait de grande transformation, que ce soit au niveau social, environnemental, économique. On voit aujourd'hui, on constate le résultat en fait de nos modèles de société passés, notamment qui ont été fondés sur la croissance infinie, donc qui arrivent à un bout de course. On arrive aux limites planétaires, donc ça engendre de nombreuses conséquences, notamment la modification du climat, la raréfaction des ressources, pour n'en citer que quelques-unes. Et donc c'est important à cette étape, à notre époque, de cette étape de transformation, de se rappeler qu'en tant que groupe professionnel, on a des implications éthiques qui sont considérables. Notre impact, en fait, il est majeur. Notre métier, en fait, il va bien au-delà de concevoir un simple produit ou service numérique. On influence, on va dire, des comportements, des usages, mais aussi des directions futures pour la société au sens large, quand on fait du design au quotidien. Donc, c'est important de se rappeler de ça, de notre responsabilité, et qu'on puisse mettre aujourd'hui notre pratique au service du long terme et du bien commun. Notamment, on va en avoir vraiment besoin, puisqu'on est dans ces changements de paradigme profonds, donc où on va passer d'une vision anthropocentrée à une vision plus écocentrée, donc où on ne se concentre pas que sur l'impact sur l'utilisateur, mais on prend en considération tous les êtres vivants, en fait.
Oui, bien sûr, ouais, tout à fait.
Il y a aussi la notion de passer de la croissance à la post-croissance, passer de l'hypertechnologie à la technologie raisonnée. Donc, en fait, on va dire qu'on a de gros challenges devant nous, et le design aussi a son rôle à jouer dans cette partie.
D'accord, ok. Peut-être qu'on pourrait avoir une réflexion un peu sur pourquoi faut-il s'intéresser à l'éthique en particulier dans le secteur du numérique, et en particulier dans notre secteur d'activité qui est l'UX design, l'UI design, le product design.
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que là, on a une vision un petit peu plus globale des enjeux à l'échelle des métiers du design en transverse. Mais c'est vrai que si on se recentre sur le secteur du numérique, il y a aussi pas mal de choses à considérer. Et notamment, il y a un premier fait, c'est que le numérique, en fait, c'est une industrie qui n'est pas neutre ni matérielle. En effet, quand on parle du numérique, on parle d'un système entier, donc composé de réseaux, de centres de données, de terminaux, qui vont générer des impacts d'un point de vue environnemental et social. Si on énumère ces deux parties, donc impact environnemental, il y a un chiffre qui est assez parlant, c'est de se rendre compte que le secteur du numérique est responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et ça, c'est un chiffre donc, qui date de 2019, qui est en constante augmentation. Donc c'est quand même assez...
assez parlant, tout à fait.
Ouais, voilà. Et il y a aussi l'ADEME donc, qui montre que ce chiffre va doubler d'ici 2025 si on ne change pas notre manière de concevoir et de produire le numérique. Quand on parle d'impact environnemental, en effet, c'est lié à l'augmentation de nos usages numériques, et ça implique en fait tout le cycle de vie, que ce soit de la fabrication de nos terminaux, la phase d'usage, la phase de fin de vie. Si on énumère un petit peu les grands impacts par étape de cycle de vie, par exemple au niveau de la fabrication, on a un impact qui est important, notamment dû à l'extraction des terres rares, donc qui sont utilisées dans nos smartphones et autres, mais aussi la consommation d'eau, donc pour extraire ces minerais. Dans la phase d'utilisation, c'est l'impact sur la consommation électrique, donc qui est exponentielle puisqu'on démultiplie aussi les usages numériques. Et dans l'étape de fin de vie, c'est le fait que les équipements numériques sont souvent jetés et très peu recyclés. Donc ce n'est pas un modèle aujourd'hui qui est soutenable en fait sur le long terme.
D'accord.
Donc ça, c'est que la partie impact environnemental.
Ouais, ce qui est déjà énorme en fait.
Oui, ce qui est déjà considérable. Et après, il y a une autre partie, en effet, qui est l'impact, les impacts sociaux. Alors, l'idée, c'est pas de tous les lister, mais ceux-là, ils sont peut-être moins perceptibles au premier abord. On les voit plus sur le moyen-long terme. On en a déjà conscience pour certains, par exemple, sur les comportements d'addiction que peuvent générer, par exemple, les réseaux sociaux, qui sont dus aussi à toute cette logique de design attentionnel. Il y a aussi, on l'a vu, par exemple, avec la nouvelle économie du numérique, et je cite, par exemple, des plateformes de livraison de repas à domicile, où en fait, ils reposent aussi et ils maintiennent une certaine précarité de l'emploi. Donc voilà, ça c'est par exemple des impacts sociaux qui sont quand même assez considérables et qui sont, voilà, qui sont importants à considérer et à contrecarrer en fait en tant que designer.
D'accord. Et donc, qu'est-ce que nous, designers, on peut faire avec tous ces chiffres, toutes ces données? Comment on peut agir en fait?
Bah déjà, je pense que la première étape, c'est d'en prendre conscience. C'est déjà une bonne étape de voir aussi voilà, que l'industrie du numérique, alors il y a plein de belles choses, hein, ça amène plein de nouveaux usages, d'avancées, mais on a aussi voilà, ces effets corrélaires. Donc déjà, en prendre conscience. Et après, ben de se dire en fait, qu'on a un formidable outil qui est la pratique du design entre nos mains et qu'on peut agir justement dans la phase de conception pour essayer de minimiser cet impact environnemental et social. Et notamment, il y a aujourd'hui, on va dire, des piliers de conception qui peuvent nous guider justement pour avoir, comme on voyait au début de l'épisode, des garde-fous dans notre phase de conception. Il y en a quatre aujourd'hui qui sont importants pour moi.
D'accord.
C'est quand on est dans une phase de conception d'un produit, c'est de considérer la question de la sobriété. Donc, essayer de considérer quand on conçoit que notre produit ou service numérique est soutenable d'un point de vue utilisation de ressources énergétiques, qu'il est éco-conçu. Il y a une deuxième notion qui est importante, c'est la notion d'accessibilité. Donc, faire en sorte que notre produit ou service numérique puisse être utilisé par tout un chacun. Il y a la notion aussi de confidentialité, que ça puisse aussi, on va dire, respecter la vie privée de nos utilisateurs. Donc qu'on ne soit pas aussi dans l'exploitation de données personnelles, qu'on soit dans la transparence. Et le dernier pilier qui est important, c'est la notion de libre arbitre. Essayer de concevoir un produit qui permette de garantir la liberté d'action et de choix de l'utilisateur. Et donc de ne pas influencer son comportement.
D'accord. Ça, par exemple, ces quatre piliers, tu arrives à les... à les installer ou à faire passer, en tout cas le message, par exemple, au sein de ta société aujourd'hui?
Alors oui, par exemple, chez SNCF Connect Entech, il y a déjà une équipe qui travaille depuis longtemps sur les notions d'accessibilité, donc c'est quelque chose qui est déjà dans les pratiques de design. On s'appuie aussi pour faire vivre et valoriser ces piliers sur des référentiels existants. Donc, par exemple, l'accessibilité, il y a le RGA aujourd'hui qui donne des guidelines en fait, hein, sur comment concevoir un service qui soit accessible. Et puis voilà, tout ce qui concerne la confidentialité et sobriété, c'est aussi des choses qu'on explore dans la conception au quotidien de notre produit.
D'accord, ok. Et au niveau de l'action individuelle. Comment toi, par exemple, en tant que designer, tu arrives à dépasser ou à faire passer le message?
C'est vrai que le design et la question de l'éthique, donc c'est un sujet qui ressort beaucoup aujourd'hui, mais il y a quelques années, donc on était au tout début, donc il y avait toute une phase d'acculturation et de sensibilisation. Et donc moi, quand je suis arrivée il y a 3 ans déjà maintenant, j'ai commencé en fait... à faire une phase de sensibilisation par des formes un petit peu plus classiques, on va dire des conférences en interne, des REX, notamment dans un premier temps au sein de la direction Customer Experience, auprès des designers, pour qu'on ait aussi une culture commune. Il y a eu après une création d'une communauté interne aussi avec les différents métiers donc, qui s'intéressaient à ces sujets, donc, puisque ce n'est pas un sujet qui concerne que les designers, ça concerne autant les profils tech, product management autres parties prenantes. Donc on va dire que ce sujet, la première étape, c'était la sensibilisation. Il y a eu la fédération d'une communauté, et puis il a fallu aller un petit peu plus loin, on va dire, aller vers une transformation un petit peu plus globale qui embarque avec elle les différents métiers.
Et à ce moment-là, donc c'est assez récent, l'idée c'était de concevoir un programme numérique responsable donc pour les équipes produits.
D'accord.
Donc qui allie les expertises design, tech, product management, et de s'engager en fait sur des axes d'action précis pour faire vivre cette notion de numérique responsable et l'incarner dans notre produit.
D'accord. Et alors, qu'est-ce que c'est exactement ce programme numérique responsable ? Tu peux nous en parler ?
Ouais. Alors, ce programme, on va dire que c'est un programme d'action qui repose donc sur quatre axes clés. Un premier axe qui concerne la vision, donc c'est qu'on définisse collectivement en fait ce qu'on attend par numérique responsable et les principes que l'on veut suivre collectivement pour notre produit. Donc on va retrouver les notions qu'on a citées juste avant, hein, la notion de sobriété, d'accessibilité. Mais l'idée c'est de pouvoir avoir une charte en fait d'éthique numérique en interne, pour qu'on soit tous alignés et qu'on ait vraiment des objectifs communs pour le mettre en place et le développer sur un produit tel que SNCF Connect.
D'accord.
Il y a un deuxième volet qui concerne la formation. Donc, c'est de pouvoir former et déployer l'éco-conception numérique au sein des équipes. Pas seulement concentré sur l'équipe de design, mais en fait qui impliquait aussi les métiers du product management et du développement.
D'accord.
Donc pour ça, par exemple, on déploie aujourd'hui, depuis quelques mois, donc des cycles de formation à l'éco-conception numérique, notamment avec Designer Éthique et Green IT.
Ah, cool.
Ouais, on se retrouve. Et donc pour terminer, on a aussi un axe de mesure. Où on va mesurer la performance aussi de notre produit d'un point de vue impact environnemental. Donc sur ce volet, on travaille notamment avec Green Spector, qui nous permet de mesurer l'impact sur des parcours clés de SNCF Connect. Et enfin, tu as un quatrième axe qui concerne le produit, c'est de pouvoir mettre en application des MVP qui permettent d'incarner ce numérique responsable, donc soit au travers de fonctionnalités clés ou de parcours clés.
D'accord. Et ça a un impact en fait de créer un MVP en amont. Ça a quel impact ?
Ouais, l'idée en fait c'est qu'on soit créatif et novateur en fait sur des idées pour améliorer notre produit en considérant donc des principes par exemple d'éco-conception.
D'accord.
Donc ça permet de fédérer en interne autour de projets clés. Donc, par exemple, là, on a développé un premier concept au dernier hackathon en interne. Donc, on a été une équipe pluridisciplinaire qui mixait du design, de la tech. On avait aussi un profil RSE. Enfin, voilà, on était en transverse.
D'accord.
Donc, ça crée une dynamique et ça nous permet aussi d'être innovants en fait, sur les prochaines fonctionnalités qu'on peut sortir pour notre produit.
D'accord. Ok. Alors, depuis quand vous avez mis en place ce programme numérique responsable ?
Alors, ce programme, donc, il a été une continuité à la phase de sensibilisation qui a duré à peu près un an et demi. Et donc, ça fait quelques mois où j'ai dû porter ce programme numérique responsable, en tout cas pour la direction produit. On a travaillé aussi en concert avec le product management et l'équipe tech pour le construire. Et l'idée, c'est que ça devienne une action collective et qu'on puisse porter ce message à plusieurs.
D'accord, ok. Donc maintenant, nous arrivons sur la quatrième partie, Mélie. Et on va plus parler de designer éthique et de éthique by design. Donc aujourd'hui, tu es co-responsable de cette association, qui est une association donc française, qui s'appelle donc Designer Éthique. Peux-tu nous présenter cette structure, comment ça se passe, quelles sont vos actions, s'il te plaît ?
Alors oui, Designer Éthique, donc c'est une structure de recherche-action sur le numérique et les pratiques de design. Donc on est une association donc nationale, on a plusieurs antennes locales, donc une à Paris, Nantes, Brest, Lyon et aussi à Bruxelles.
D'accord.
Et on compte une quinzaine de membres actifs, donc qui sont des designers de métier, donc freelance, qui travaillent en agence ou en entreprise. Et on a donc plusieurs actions au sein de cette association. Il y a un premier volet qui concerne la recherche. Donc, on a des programmes de recherche en interne sur des thématiques qui nous semblent majeures à investiguer d'un point de vue design. Donc, ça concerne l'éco-conception numérique, le design systémique, la notion de design persuasif également. On a aussi tout un volet de sensibilisation, donc qui s'incarne notamment au travers d'événements fédérateurs de la communauté avec Ethics by Design, notamment. On a aussi développé tout un volet sur des outils accessibles en open source, parce que l'idée, c'est aussi qu'on puisse être moteur et outiller les designers au quotidien dans leur parcours de design et dans leur métier au jour le jour. Donc, on a par exemple des outils qui sont accessibles comme la matrice d'analyse d'externalité. On a aussi le guide d'éco-conception numérique. Voilà, on donne et on met à disposition ce genre de support. Et on a aussi un volet de formation. Donc, où on propose aujourd'hui de la formation pour les designers sur des sujets comme l'éco-conception numérique, l'accessibilité et le graphisme responsable.
D'accord, vraiment très très large quoi. Et donc tu disais que vous étiez une quinzaine de membres actifs et donc ça veut dire que au-delà de ces membres, il y a une communauté beaucoup plus grande.
Participe à l'évolution du podcast, participe aux enregistrements avec les invités, propose et viens poser tes questions, découvre la roadmap du podcast, suggère des invités, écoute les nouveaux épisodes en avant-première, viens poser toutes tes questions sur le podcast dans la section AMA. Tout ceci et bien plus encore est disponible dans les abonnements Super Premium et Maxi Premium. Pour en profiter, clique sur le lien qui se trouve dans la description de cet épisode pour t'abonner maintenant.
Oui, tout à fait. Mais il y a en effet un cœur de designers actifs qui font vivre l'association et ses actions au quotidien. Et après, on a en effet toute une communauté qui est fédérée en fait autour de cette association, donc où on se retrouve notamment via le Slack en ligne, mais aussi donc au travers de nos événements qu'on organise soit dans les antennes, mais aussi au niveau national avec Ethics by Design. Donc on va dire que c'est il y a vraiment une communauté aussi qui suit et qui nous supporte au quotidien sur ces sujets.
D'accord. Quand est-ce qu'elle a été créée, l'association ?
Alors, l'association, elle a été créée en 2017.
D'accord.
Et elle a vu le jour notamment par l'organisation du premier événement Ethics by Design en 2018, où ça a été l'événement qui a lancé aussi l'initiative de l'association. Et après, au fur et à mesure que les membres ont rejoint ce collectif, on en a fait... on a développé en fait des activités et des axes d'action que j'ai cités, de formation, de recherche, pour en faire un mouvement vraiment plus global pour la communauté du design.
D'accord. Alors tu disais que Designer Éthique est un lieu de réflexion sur le métier de designer. Et moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment ça s'incarne concrètement en fait.
Ouais. Alors... En effet, on a l'événement Ethics by Design qui est vraiment, on va dire, la pierre angulaire et qui nous permet de réfléchir sur notre métier de designer. Donc c'est un événement qu'on organise tous les deux ans, qui dure trois jours environ, et qui va nous permettre en fait de réunir différents professionnels, pas forcément que des designers, mais aussi des sociologues, des économistes, qui vont nous permettre de réfléchir sur notre pratique, mais aussi comprendre les changements sociaux, environnementaux qui sont à l'œuvre, et qui nous demandent aussi de se poser des questions d'orientation de notre métier de designer.
Alors, comment l'événement a évolué depuis son lancement alors ?
Alors, on a eu donc déjà une première évolution concernant les thématiques. En 2017, on était vraiment concentré sur les thématiques de design persuasif. C'était à l'époque de Facebook, des questionnements de fond sur ces sujets. Et petit à petit, en fait, on a élargi notre champ d'investigation pour aller comprendre tout ce qui influençait le métier du design. On s'est intéressé donc notamment au design dans les organisations, le rôle et le pouvoir d'action que peut avoir un designer. On s'est intéressé aux modèles économiques qui sont encore aujourd'hui tournés vers le court terme. On s'est intéressé à la question de la formation, à la question de l'impact environnemental. Donc à chaque fois, on a élargi nos questionnements pour se poser des questions sur notre métier en fait fondamental. On a eu aussi donc une évolution notable sur le public qu'on adresse. Donc au début, on avait environ 130 personnes, notamment pour la première édition d'Etiba Design. Et aujourd'hui, on est à 900 participants.
Ah oui, d'accord. Oui, donc grosse évolution. Hein.
Ouais. Ouais. Surtout pour un sujet qui, au début, était plutôt un sujet de niche, on va dire. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on élargit en fait la cible et l'impact grandit d'année en année. Notamment, la dernière édition, on s'est rendu compte qu'on avait des profils aussi de designers intégrés en agence, en entreprise. Donc voilà, on va toucher différents profils. Et c'est super intéressant parce que ça veut dire que ces enjeux de responsabilité se démocratisent dans notre métier. Et on est super fiers de pouvoir contribuer à ce mouvement-là.
D'accord. Donc là, la prochaine édition aura lieu ?
En 2024.
En 2024. Vous avez déjà défini une date ?
Alors, pas encore. Ça va être septembre, octobre ou novembre 2024, mais on n'a pas la date officielle encore.
D'accord. Donc, rendez-vous sur le site de Designer et Éthique. Bien entendu, vous retrouverez le lien dans la description et vous pourrez vous rendre pour voir un petit peu l'évolution et avoir la date. Bien entendu, Mélie et l'association en parleront sur leur réseaux sociaux. Et tu disais un petit peu sur l'évolution aussi du format, je crois qu'il a un petit peu évolué aussi, c'est ça ?
Bah alors, le format de cet événement, c'est vrai que c'est important pour nous en fait, d'avoir une partie donc, théorique, donc sous format de conférence, mais aussi une partie dans le faire, hein, au travers d'ateliers. Et donc, on a toujours eu cet ADN de mixer ces deux formats, mais c'est vrai que ces dernières années, ça nous a semblé important de donner plus d'importance à cette notion d'atelier. Et donc aujourd'hui, dans les programmations qu'on propose, c'est des ateliers qui ont lieu sur une matinée ou une après-midi. Et ça nous permet en fait d'aller approfondir des thématiques clés comme la question du design systémique, l'éco-conception, et de pouvoir permettre aux designers de se rassembler et d'apprendre en commun sur ces sujets-là et de ressortir aussi avec des outils qu'ils peuvent appliquer directement dans leur pratique, notamment au travers des supports qu'on développe en open source.
D'accord. C'est vrai que je crois que, par exemple, aux UX Days de Flupa, les ateliers sont très très vite pris d'assaut et que ça fonctionne très bien. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un atelier que vous proposez ou que peut-être que vous avez déjà réfléchi pour l'année prochaine, je sais pas.
Oui, bah alors pour l'année prochaine, on en a pas encore discuté, donc on va voir. Mais en tout cas sur ceux qu'on a pu proposer à la dernière édition, il y en avait plusieurs. Il y avait la fresque du design et de l'éthique. Donc il y a un outil qui permet qui repose en fait sur la logique de fresque du climat et qui permet à plusieurs personnes de pouvoir au travers d'un jeu de cartes poser et contextualiser les thématiques clés quand on parle d'éthique numérique. On a aussi proposé un autre format autour du design systémique qui a bien fonctionné, où on proposait donc aux designers d'utiliser notre outil donc de matrice d'analyse d'externalité, qui est un outil en fait qui permet de mapper les externalités positives et négatives que peuvent générer un service ou un produit. Et donc c'est un outil qui est intéressant parce que ça permet en fait de nous défocaliser simplement sur l'impact utilisateur. Donc on va aller s'intéresser à l'impact social, environnemental, économique. Et ça nous permet aussi de pouvoir réfléchir au moyen et long terme de notre projet. Parce que souvent, dans des logiques de projet aujourd'hui, on est plutôt sur du court terme. Et là, l'idée, c'est de réfléchir à quel impact peut générer mon produit ou service à 5 ans, 10 ans. L'idée étant en fait d'avoir ce temps de prise de recul dans la phase de conception et de pouvoir réorienter notre produit pour que ça soit le plus éthique possible.
D'accord. Alors, je crois que chez Designer Éthique, vous avez développé aussi un axe de formation. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît ?
Oui, tout à fait. On a développé la formation, puisqu'en fait, sur le marché, on n'avait pas beaucoup d'organismes en fait, qui proposer de nous former en fait sur des thématiques clés comme l'éco-conception numérique, entre autres. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir proposer à la communauté un espace et des modules qui permettent de monter en compétences et de, bah voilà, de se mettre aussi à niveau par rapport aux enjeux qu'on doit adresser. Donc aujourd'hui, on fait de la formation sur l'éco-conception numérique, sur l'accessibilité, sur le graphisme responsable, et on souhaiterait développer la systémie. Donc voilà, c'est un axe qui est important pour nous aussi pour faire monter aussi en compétences cette communauté et qu'on gagne en impact aussi.
D'accord. Donc ces formations sont destinées à quel public ?
Alors c'est destiné donc notamment aux product, enfin aux designers, product designers, enfin les métiers du numérique en particulier.
D'accord.
Ouais.
D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous parler d'une des formations que vous proposez à Designer Éthique, s'il te plaît ?
Oui, alors il y a une formation qui est la plus développée aujourd'hui, qui est celle de l'éco-conception numérique. Donc on a plusieurs formats qu'on propose. Donc il y a l'atelier professionnel, donc qui est une demi-journée. Mais on a aussi, on va dire, des modules plus longs, de 1 à 3 jours. Où on va aller explorer les fondamentaux de l'éco-conception, donner aussi des bonnes pratiques pour l'appliquer en tant que designer. Et on a développé aussi récemment un format qui est plus transverse, notamment en collaboration avec Green IT et IT on Us, où sous 3 jours, en fait, on forme à la fois les équipes de design, mais aussi de dev et de product management. Donc, ce qui permet d'avoir une approche plus transverse et globale de l'éco-conception numérique. Donc ça, c'est des formats qui s'adressent plutôt pour des équipes produits en entreprise, en agence.
D'accord, donc plutôt en intra entreprise, d'accord.
On a intra entreprise, mais aussi des formats qui sont plus destinés aussi aux designers freelance. On adresse un petit peu tous les contextes.
D'accord, ok. Donc maintenant, nous arrivons à la dernière partie, donc la conclusion. Et donc La question, c'est pour répondre au titre, c'est peut-on être designer et éthique ? Alors, je voudrais avoir ton avis et ta réponse, s'il te plaît.
Bien, écoute, je dirais oui. Je pense qu'aujourd'hui, on peut, puisqu'on a aussi une plus grande maturité et on a aussi des outils et des moyens de se former pour prendre en considération ces questionnements éthiques. Et c'est aussi, en fait, une nécessité je trouve, dans cette période de transformation, où on a des grands enjeux d'un point de vue social, environnemental, économique. On a besoin, en fait, d'avoir une communauté de professionnels qui ne s'engagent pas seulement dans un métier par un intérêt individuel, que ce soit carrière et économique, mais qui soit aussi dans une logique de contribution collective. Je pense que c'est important qu'on revienne à cette essence-là. Et en fait, pour moi, notre première responsabilité, c'est justement de faire profiter de notre compétence, de cette pratique de design, pour construire une société qui soit plus juste et vertueuse.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Mélie, d'être passée dans Design Plus. C'était vraiment un réel plaisir de parler de ce sujet. Est-ce que tu as peut-être une phrase pour conclure ou quelque chose à dire ? Je ne sais pas.
Bien, écoute, non, j'étais ravie en tout cas de pouvoir participer à ce podcast au travers de ton interview. Et j'espère que tous ces questionnements vont aussi générer des retours de la part du comité du design et qu'on va pouvoir aussi étayer ce sujet au long cours.
D'accord, et je suis absolument d'accord. Eh bien, merci beaucoup et je vous dis donc à bientôt. Merci encore à Mélie d'être venue partager ses connaissances sur le design et l'éthique dans Design Plus. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de le partager autour de toi, sur LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook et ailleurs. Tu peux aussi noter le podcast et écrire un commentaire sympa sur ta plateforme d'écoute pour partager ton avis avec les autres designers. Pour continuer à écouter le podcast, recevoir les notifications des nouveaux épisodes de la saison 10 et plus, alors n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute. À bientôt, salut !